Vous êtes sur RTL. Pascal Praud sur RTL.
Je vais quand même rappeler les faits, parce qu'il est possible que tout le monde ne s'en souvienne pas. Les 13 jeunes âgés de 16 à 21 ans au moment des faits étaient accusés d'avoir fait partie de la vingtaine de personnes encagoulées qui, le 8 octobre 2016, avaient attaqué en pleine journée deux voitures de police stationnées à proximité du quartier de la Grande Borne, qui est une cité d'habitat social considérée comme l'une des plus sensibles d'Île-de-France. Ils avaient brisé les vitres, jeté des cocktails Molotov dans les habitacles, et dans une première voiture, un adjoint de sécurité de 28 ans et une gardienne de la paix de 39 ans avaient pris feu. Ça, c'était donc en 2016. Au premier procès, 8 jeunes avaient été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison, 5 autres avaient été acquittés, et cette fois-ci, 3 ont été condamnés, 3 hein, au lieu de 8, à 18 ans de prison, un autre à 8 ans de prison et le dernier à 6 ans, et ils encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Et à l'issue de 14 heures de délibération et 6 semaines d'audience à huis clos, hein, les 5 condamnés ont été reconnus coupables. Donc voilà les faits. Sabine, qui est donc avocate et qui dit qu'elle n'est pas étonnée du verdict. Pourquoi vous n'êtes pas étonnée ?
Alors, moi, je suis, bien sûr, je vais même pas raisonner comme avocate, je vais raisonner comme française lambda. En fait, ce qu'on sait, je suis pas étonnée parce que le parquet, les magistrats du siège, tous les magistrats, depuis les années 80, statue par un prisme d'excuses sociales. Alors là, on a l'excuse en plus de la minorité, de tout ce que vous voulez. Donc ça, on est habitué. Et en fait, c'était le moyen qu'ils avaient fait croire aux Français par lequel la société allait se pacifier. Or, en agissant comme ça, ils ont laissé filer la violence jusqu'à une tolérance que maintenant les Français ne comprennent plus. Les Français s'aperçoivent que c'est pas vrai, que on fait tout, l'école est gratuite, la santé est gratuite, la cantine est gratuite, les logements sont gratuits, donc ils comprennent plus. Et en fait, c'est les Français qui ne comprennent plus cette justice. C'est pas la justice qui est laxiste. Elle a toujours été laxiste, sauf que les Français ne l'acceptent plus parce qu'on leur a vendu un concept qui, à la fin au bout du compte, n'est pas la promesse qu'on leur a dit. On leur a dit que sans grande punition et par la compréhension, par la prévention, on arriverait à régler le problème. Or, ça a été l'inverse. Et si parfois certains des prévenus, des accusés ne respectent plus l'État, c'est bien, à mon avis, parce que l'État ne leur met plus de limites. Et parfois, certains d'entre eux la trouvent ailleurs, parfois dans le sport, parfois dans la religion. La religion, elle donne des limites, et c'est ça qu'ils respectent. Elles peuvent être très restrictives. Si je prends la communauté musulmane qui respecte l'islam, ça a des contraintes le ramadan, tout ça, c'est des contraintes qui sont très restrictives, mais qu'ils respectent parce que on leur laisse pas le choix. Et l'État ne fait plus ça. Les magistrats ont toujours été dans cette excuse de pauvreté, de social. On laisse
j'entends bien, mais si vous me permettez, c'est un poil plus compliqué quand même, parce que le parquet avait fait appel. Ça, c'est très intéressant.
Oui, le parquet a fait appel. Il a fait des réquisitions moins sévères qu'en première instance.
Alors ça, effectivement, ce n'est pas dit, je l'ai appris ces dernières heures, mais c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le parquet fait appel parce qu'il considère que le premier jugement, le premier verdict n'est pas suffisamment sévère. Et vous avez ce paradoxe, c'est que l'avocat général du procès d'appel requiert des peines moins sévères que l'avocat général du premier instance. Et ça nous étonne. Moi, j'ai posé la question ce matin, j'arrive pas à avoir la réponse. C'est-à-dire que l'avocat général n'est pas tenu de suivre le parquet, non. Manifestement. Il a une liberté qui lui est propre, c'est sa liberté individuelle.
Mais il y a des courants idéologiques plus ou moins...
Je suis d'accord, mais on ne peut pas, donc quand vous dites les magistrats tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus compliqué.
Moi qui fais plus de pénal, mais qui en ai fait au début, j'avais je vous assure, en comparution immédiate, des casiers judiciaires qui étaient plus grands que moi. D'accord, des récidivistes qui étaient mineurs, qui avaient été récidivistes majeurs et qui continuaient à être récidivistes. Ils arrivaient, moi qui les défendais à l'époque, parce que j'étais obligée, il suffisait, et on le savait, c'était à l'époque à Pontoise, il suffisait de dire « je m'excuse, j'ai fait du mal à ma maman, je recommencerai plus, j'ai un travail », et on regardait même plus, on regardait même pas plus loin.
En tout cas, merci Sabine de ce premier témoignage, mais c'est vrai que ça c'est très intéressant, cet avocat général qui demande des peines plus légères qu'en première instance, alors que le parquet avait, je le répète, fait appel. Et puis il y a autre chose qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut apporter la preuve. Et quand vous avez une vingtaine de jeunes gens, je le répète, encagoulés, c'est très difficile de dire qui a fait quoi. Forcément. C'est pour ça d'ailleurs que certains réclament qu'à partir du moment où tu es associé à ce type de comportement, tout le monde soit puni de la même manière, que tu aies produit le dernier coup fatal ou pas. Je l'ai entendu, cela aussi, mais c'est très difficile d'apporter la preuve. Mais j'ai vu que Sabine voulait peut-être réagir, ça sera juste après la pause sur ce dernier argument d'apporter la preuve, ce qui n'est pas simple. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, sujet qui fait réagir. Dans la nuit de samedi à dimanche, la cour d'assises des mineurs de Paris a condamné en appel 5 jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion criminelle et a acquitté 8 autres accusés.
Et Sabine a été la première à intervenir au 32-10 sur cette question. La justice est-elle trop laxiste ? Patrice Ribeiro du syndicat de police Synergie Officier a réagi dans RTL Midi.
Ça provoque beaucoup de sidération et d'indignation parce que la réalité vécue par nos collègues, elle n'est pas restituée nécessairement par cette décision. Vous avez effectivement un jury populaire, mais qui sont des gens qui sont aujourd'hui on appelle des Parisiens, donc qui savent pas ce que c'est que de vivre à la grande borne, qui savent pas ce que c'est que les quartiers difficiles. Vous avez des témoins qui ont été lynchés, qui ont été intimidés. Une décision de justice n'est pas nécessairement un restitut de la réalité.
Vous êtes policier, l'un des membres de votre famille dans les forces de l'ordre. Venez témoigner dans l'émission. Le syndicat Alliance appelle à des rassemblements demain devant tous les tribunaux de France. Et Tony, sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole, parle d'un verdict hallucinant. Comment voulez-vous calmer les délinquants avec ce genre de décision, lance Fred. Les sanctions sont trop faibles pour Hervé, partagez-vous ces avis 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
Sabine qui est avocate, je disais avant de laisser passer une pause, Sabine, qu'il faut apporter la preuve et que c'est difficile. Il y avait 20 jeunes gens cagoulés.
Je suis d'accord. Sauf qu'il y a eu une enquête et cette enquête, elle est diligentée. Elle est faite par des policiers, mais par un juge d'instruction. Et donc, si ces personnes se sont retrouvées dans le box des accusés, c'est qu'il y avait des preuves pour les y mettre. On les a pas mis comme ça. Alors après, il y a une acception personnelle de la preuve, si vous voulez.
Et non, mais ce qui m'intéressait, c'était juste votre réaction là-dessus, sur la difficulté d'apporter la preuve. Merci Sabine, puisque la parole tourne et c'est un peu le jeu de notre émission. Donc Frédéric est avec nous, il est commandant de police. Il est dans les Hauts-de-France et j'imagine que vous êtes policier, donc vous êtes sans doute... est-ce que déçu est le mot qui convient ? Certains sont en colère aussi. En même temps, c'est toujours difficile de parler d'un sujet dont le procès était à huis clos, par exemple, je le précise. Donc on n'a pas eu accès à tous les éléments du dossier. C'est important de le dire, Frédéric.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Bonjour.
Moi, ce que je constate, c'est que certains ont tenté de tuer des policiers. Il y a des policiers qui ont été marqués dans leur chair et qui sont marqués psychologiquement à perpétuité. Et la justice de notre pays, la grande justice de notre pays, a encore fait la part belle aux délinquants, aux sauvages, qui attaquent notre institution et qui attaquent l'État. Et cela démontre une incapacité de notre société à voir la réalité en face, à savoir que tous ceux qui portent un uniforme, tous ceux qui peuvent aider, sanctionner parfois, sont considérés comme des sous-citoyens et qu'on laisse faire des sauvages, des gens qui ne sont même pas humains, qu'on leur permet d'attenter à la vie ou à l'intégrité physique et morale de ces personnels en toute impunité. Alors oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que le fait de porter un uniforme ne représente pas un défouloir à tous les maux de la société. Et là, ce verdict, alors certes, c'est la justice, avec un grand J, mais je suis atterré, je suis complètement déboussolé par cette décision.
Alors ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la lecture du verdict a été interrompue par une bagarre générale. dans le box des accusés.
Mais oui,
qui
mais
a nécessité l'intervention d'une trentaine de policiers et gendarmes. Et les heurts se sont ensuite étendus dans la salle d'audience où étaient présentes les familles des accusés. Et en fait, ces heurts, cette bagarre entre accusés, signifie pour certains que, entre les accusés eux-mêmes, il n'y avait évidemment pas... ils n'étaient pas sur la même ligne. Et ceux, sans doute, qui se sont retrouvés condamnés ont reproché à ceux qui ne l'étaient pas de s'en être sortis.
Oui, tout à fait.
Donc il y a presque, comment dire, non pas une preuve de la culpabilité de tous, je dirais évidemment pas ça. Mais en tout cas, pour ceux qui, ceux qui sont entrés en conflit avec eux, ils devaient sans doute le penser. Et je prends vraiment des précautions oratoires pour le dire, bien évidemment.
Alors moi, je vais prendre moins de précautions, mais ça démontre que cette frange de la population, même dans l'enceinte d'un tribunal, n'a rien à faire des règles qui sont édictées. Rien du tout. Rien du tout. Ils se croient chez eux partout. Le droit est pour eux. Donc fatalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est open bar et puis en avant.
Alors il y a quand même des condamnations, mais je le répète, c'est intéressant parce que ce que je trouve extraordinaire aussi, et je le dis d'autant plus que, je le répète, c'était à huis clos, on ne sait pas tout, mais il y a donc des jeunes gens qui sont condamnés à 8 ans et à 6 ans. Donc ces gens-là sont reconnus coupables, nous sommes d'accord. Donc ils ont attenté à la vie d'un policier et ils n'ont entre guillemets que 8 ans et 6 ans. C'est ça que je ne comprends pas non plus. Soit tu es acquitté, à ce moment-là, il n'y a pas de preuves, et ça, je peux le comprendre. Mais en revanche, les jeunes, ceux qui ont participé, qui sont reconnus coupables, je rappelle qu'il y a une femme qui a été brûlée quand même. Brûlée.
Mmh. Et un adjoint de sécurité de 28 ans qui a des séquelles à vie.
Et quand elle est sortie, cette femme, elle est sortie de la voiture et elle a dit « Je suis mère de famille, épargnez-moi, etc. » Elle était déjà brûlée. Ils l'ont caillassée. Je veux dire, ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron dans le Figaro ce matin. Il dit « Les actes commis sont ignobles et d'une rare cruauté. » C'est la vérité. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est exactement ça. C'est ignoble et d'une rare cruauté. Jamais je n'accepterai que l'on s'attaque à ceux dont le métier est de nous protéger. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin.
Oui, mais ça, ce sont des beaux discours de professionnels de la politique. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand... Les collègues, et ce week-end, c'est encore arrivé à Tourcoing et à Lille, c'est quand on nous tire au mortier d'artifice avec une portée de plus de 150 mètres, qu'on puisse répliquer avec les armes adéquates. Pas des grenades, bah
c'est ça
de des encerclements ou
je n'ose comprendre ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas encourager les policiers à répondre parce que ça va...
À ce moment-là,
il va y avoir des morts sur le terrain.
Aucun chef de service n'aura le courage de dire cela. De dire cela, on nous attaque à l'arme qui peut être assimilée comme une arme de guerre parce que vous prenez un pélo de feu d'artifice en pleine tête, j'ai un doute qu'une simple pédicure ou un soin du visage vous suffise pour vous réparer. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait aussi que les gens comprennent, c'est que nous en avons assez de servir de défouloir à une frange de la population qui n'en a cure des règles édictées.
Mais on peut vous comprendre, et l'adjoint de sécurité de 28 ans, le pronostic vital avait été un temps engagé, il avait été plongé dans le coma pendant plusieurs semaines, plus de 4 ans après les faits, il porte encore les marques de l'agression sur son visage, et deux autres agents avaient été blessés plus légèrement. Non, mais c'est une affaire qui, effectivement... Ouais, après, et alors, pour une raison que je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'autant on parle beaucoup d'un procès en première instance, autant ce procès-là, on en a moins parlé en appel. Alors, c'est vrai qu'il est à huis clos, ce qui est difficile, évidemment, de rapporter les faits. Mais je trouve qu'on n'en a peut-être pas parlé autant, même sûrement pas autant qu'en première instance, et peut-être pas autant qu'on aurait dû en parler, pour tout vous dire.
Alors, si je peux juste finir là-dessus,
vous en prie, Frédéric.
Pascal... Quand on a un président, un premier ministre, un ministre de l'Intérieur qui fait une visite officielle, est-ce que en 40 ou 50 ans, vous avez vu une telle personnalité prendre une claque ?
Non.
Est-ce que vous l'avez vu,
non,
ça ?
Quoi, un président de la République prendre une claque par un... Par un manifestant ou par
quelqu'un, un
spectateur ?
Un
non, ça, je bon, l'aurais remarqué, je pense.
Bon, de ce fait, pourquoi ? Parce qu'il y a un rempart. Ce rempart porte un uniforme. Et il faudrait que nos politiques fassent quand même attention que ce rempart, à un moment ou à un autre, ne cède pas et puis laisse passer celui qui a envie de mettre une claque. Et là, ils se rendront compte qu'ils ont besoin de nous.
Frédéric,
parce que je comprends les discours politicaux. Mmh. Tout le monde est beau, tout le monde est
gentil.
Gérald
Darmanin sera là demain sur l'antenne d'RTL. Il sera là avec Benjamin Sportouche. Et donc, j'imagine que ce sont des questions que vous pourrez lui poser. L'émotion suscitée par l'attaque odieuse de Viry Châtillon a tweeté Gérald Darmanin le 8 octobre 2016 est encore intacte. Je recevrai personnellement les policiers victimes. C'est vrai que si j'étais désagréable, je dirais ça leur fait une belle jambe. Mais bon, je ne le dirais pas comme ça, forcément, à Monsieur le ministre. Et je n'engage pas Benjamin Sportouche à poser la question de cette manière-là. Mais sans doute, si tu es policier, tu attends peut-être aujourd'hui autre chose qu'on te reçoive dans le ministre, en l'occurrence dans le ministère de l'Intérieur. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors je rappelle, parce qu'effectivement tout le monde ne le sait peut-être pas, en cour d'assises, en première instance, c'est 3 magistrats et 6 jurés populaires qui vont faire le verdict. Et en appel, c'est 3 magistrats et 9 jurés populaires. Et je rappelle qu'il n'y avait pas d'appel il y a encore quelques années pour une cour d'assises. Il y avait la possibilité de cassation, mais il n'y avait jamais un second jugement. L'appel, c'est assez récent. Nous sommes avec Hamid. Bonjour Hamid, qui est un ancien policier qui habite dans l'Aube.
Exact, oui, je suis Hamid. Je donne même mon nom parce qu'il y a des collègues qui vont me reconnaître et ils vont comprendre pourquoi. Je m'appelle Saïdi, Hamid Saïdi, Hamid Gérard Saïdi. Alors, obligatoirement, bien sûr, vous pensez bien que moi, ancien policier, quand j'ai entendu le verdict, mais alors je suis tombé sur les fesses. Non, mais c'est... Moi, pour moi, ces magistrats-là sont des fous et des irresponsables. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Hein. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Non, mais attendez, c'est incroyable. Qui plus est, si vous qui suivez l'actualité, Monsieur Pro, et moi je vous suis aussi le matin sur CNews, je crois qu'il y a une personne qui n'a pas respecté le couvre-feu 3 fois, qui a pris 4 mois de prison ferme. Attendez. Et là, des gens qui essayent de tuer des policiers, des anciens collègues que moi je considère, malgré que je sois retraité depuis presque 10 ans, je me considère toujours mes anciens collègues comme étant mes collègues, les gars sont acquittés. Non mais attendez, on croit rêver là. On croit rêver.
Mais, alors, je vais me faire évidemment l'avocat du diable, Hamid.
Bien sûr.
Vous n'étiez pas présent. D'ailleurs, personne n'était présent à l'audience. L'audience, elle est à huis clos.
Tout à
fait. Effectivement, nous ne savons pas les motivations des jurés.
Tout à fait.
Donc, pourquoi, au fond, cette décision, quoi, cette opinion que vous avez et que vous venez de dire à l'antenne, au fond, elle repose sur quoi ? Sur un sentiment général ou sur un examen particulier ?
Ben non, sur un sentiment général. De toute façon, il y a des années que le laxisme existe. Regardez l'affaire Florence Ray. Il y a eu 3 policiers abattus, dont un que je connaissais prénommé Guy.
Oui, alors là, c'était...
mais attendez, non, mais je vous le dis, moi. Elle
c'était porte de Saint-Cloud, de mémoire.
Donc, non, mais au bout de 14 ans, elle était dehors. Donc là... Là, on est dans le même cas de figure, voire pire. Hein. Et bien sûr, mais vous savez que les avocats, certains avocats ont une rhétorique magnifique, ils arrivent à endormir un jury. Hein. Dupond-Moretti en est un bel exemple. Hein. Et voilà, c'est tout. Avec la rhétorique, on arrive à endormir un jury, et puis on arrive à des peines comme ce qu'on constate aujourd'hui. Voilà, des peines que, pour ainsi dire, rien. Et celui qui a pris 18 ans, je vous fais le pari que dans 5 ans, il est dehors. Hein. Ça, connaissant la justice un petit peu et certaines choses, moi je vous dis que dans 5 ans il est dehors. Allez, mettons 8. Hein.
Florence Rest, c'était cette jeune femme en 94, je vérifie
oui,
en même
fait.
Temps hein, que
oui.
vous parliez, oui. qui avait tué oui. un policier.
Il y en a eu 3 tués.
Voilà, qui avait tué.
Dont un motard prénommé Guy, je ne donnerai pas son nom, mais qui était un de mes bons collègues.
Ça avait marqué les esprits par la violence, la jeunesse des protagonistes, leur personnalité, en particulier Florence Rey, qui était restée silencieuse longtemps. On se demandait si c'était un crime d'ailleurs politique ou pas. Parenthèse refermée.
Toujours est-il, cette parenthèse, je la referme tout de suite après vous. Elle avait pris perpète, il me semble, et au bout de 14 ans, elle était dehors. Donc faites le compte. 3 policiers tués, 14 ans de prison, faites le compte. Ça fait moins de 5 ans par policier tué. Mmh. Et voilà. Et là, on est exactement dans le même cas de figure avec cette affaire de Viry Châtillon. Exactement. Et c'est malheureux. Ouais.
Ouais. Bah écoutez, merci.
Et je peux dire un dernier truc.
Non, elle avait pris 20 ans, vous voyez, le 30 septembre 1998, ouais. Après 5h30. Voilà, elle avait pris 20 ans de réclusion criminelle. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut tout vérifier, ouais. Vous voyez, Hamid, parce qu'elle n'avait pas pris perpétuité. Donc elle avait pris 20 ans, elle est restée 14. Ouais. Donc, alors, c'est pardonnez-moi, dire... c'est pas agréable d'être dans celui qui vérifie comme ça, mais d'accord, j'essaye de vérifier parfois le plus vite possible ce qui se dit à l'antenne.
Et juste un petit mot pour terminer, j'ai bien écouté le commandant qui s'exprimait avant vous.
Oui.
Moi, je pense que ce qui ferait du bien au pays et qui ferait réfléchir les politiques, c'est une grève générale du zèle de toutes les forces de l'ordre. Et là, croyez-moi, peut-être qu'après, là, il se remuerait peut-être un petit peu l'exécutif. Mais une grève générale, plus de PV, plus rien. Juste les interventions urgentes. Mais tout le reste, on laisse tomber. Plus de contrôle sur la route, plus de PV pour le couvre-feu, plus de PV pour les infractions à la circulation routière. On laisse faire, on laisse tout faire. Et là, peut-être qu'après, l'exécutif dira, bon, là, il est peut-être temps qu'on se réveille. Voilà ce que ma conclusion.
Ben merci beaucoup, Hamid. Voilà.
Je vous en prie, monsieur.
J'allais dire, vous êtes là pour ça, et c'est votre émission, et c'est un moment effectivement où il est possible d'exprimer son avis en toute liberté. Je n'ai pas encore salué Greg Caranoni. C'est une émission moins légère parfois que celle que nous faisons de temps en temps, même si nous alternons. Forcément, c'est l'actualité qui décide. Bonjour Greg.
Bonjour à tous.
Vous êtes un fan de foot ?
Non, pas du tout.
Alors, on pourra revenir sur cette Super League, le foot des riches, et on a le sentiment d'être un peu dépossédé de notre histoire du football. Nous, on a grandi avec la Coupe d'Europe des clubs champions.
Ah oui.
Et ça, dans les années 75, il n'y avait même pas de poule, ce qu'on appelle le groupe. Donc, on rencontrait des équipes comme Partizan de Belgrade, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Banik Ostrava, vous voyez, des noms comme ça qui viennent d'un autre temps, le Steaua Bucarest. Et c'était merveilleux parce que c'était le tirage au sort intégral. Donc après, il y a eu la Ligue des Champions, où on a commencé déjà à diriger un peu le tirage au sort. Et puis là, ce serait une Super League où les meilleurs ne jouent qu'entre eux, au fond, avec des franchises à l'américaine. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me rend un peu triste. Et en même temps, c'est la société libérale. Donc il y a là un paradoxe qu'il faut que j'arrive à examiner.
Et est-ce que c'est le moment de rappeler que Marseille est le seul tenant du titre ? Je sais pas.
Écoutez, oui, Marseille, jamais les premiers, mais on le dit à chaque fois, ami. Bon, 13h28, on peut en parler avec vous. Nicolas Georgerot était là tout à l'heure. J'ai vu l'ami Christian Olivier qui est... dans les parages, s'ils veulent venir en parler, vraiment, il n'y a pas de souci. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier, ça réagit fortement, le jugement de Viry Châtillon.
Ouais, un sujet qui vous fait réagir sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Et Pascal, vous en avez parlé aussi juste avant. Vous pourrez réagir dans quelques minutes au séisme sans précédent dans le monde du football. 12 grands clubs qui veulent lancer leur Super League. Souhaitez-vous voir plus de Real Madrid, de Manchester United, de Barcelone, Juventus, de Liverpool, Milan AC ? Est-ce que c'est un caprice de club riche ? La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, était l'invitée de RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
C'est clairement une fuite en avant. Alors, c'est vrai qu'on franchit un cap en mettant dans une ligue fermée 12 clubs. Allez, ils veulent aller jusqu'à 20, mais 20 clubs, toujours les mêmes. Finalement, il faut se poser quand même la question de l'intérêt de ces matchs, quoi.
L'esprit sportif n'existe plus pour Jackie sur nos réseaux sociaux. La soif d'argent de tous ces puissants du foot a pris le dessus. Pour Thierry, ce sera une Super League entre clubs endettés. Voilà tout, le football, comme on l'aime, c'est terminé depuis bien longtemps, soupire Arnaud. Et des propos partagés par Franck, les joueurs n'ont plus l'amour de leur club. Seul l'argent les guide aujourd'hui.
Vous pourrez parler également, pourquoi pas, d'Elisabeth II. Vous avez été peut-être très frappé par cette image ce week-end, elle était seule et cette solitude venait de loin, elle traversait les siècles d'une certaine manière. Les fantômes de Richard Cœur de Lion, de Marie Stuart, de la reine victorière planaient et Elisabeth, chapeautée, masquée, courbée, pensait peut-être à son tour qui viendra bientôt, puisqu'elle a 95 ans et forcément dans ces cas-là, on imagine que le compte à rebours a commencé. En tout cas, vous pourrez réagir sur cette image qui faisait la une hier des journaux d'Elisabeth II. Abdel souhaite répondre à Hamid. Bonjour Abdel.
Bonjour Pascal Pron.
Et ça merci d'être avec moi.
Je parle avec vous parce que ça fait des années que je vous suis. Je vous ai vu quand vous étiez jeune. À très bon, absolument.
Vous m'avez vu quand vous étiez jeune ? Où ça, quand j'étais jeune ?
Une photo de vous, oui, dans la tribune de la Sénat quand vous étiez mort.
Ah bah oui, bah j'y étais, j'étais avec mon papa.
Elle était en noir et blanc, non?
C'est
Mais j'ai l'impression qu'on vous entend pas très bien. C'est ça qui m'inquiète un peu, Abdel. J'ai l'impression que la ligne n'est pas sécurisée.
Je suis sur les hauteurs d'une ville.
Oui, ben donc attendez, on va essayer de la sécuriser parce que là c'est pas à 100% efficace. Donc on voit dans une seconde et là en attendant on parle avec Maxime qui habite Cergy. Bonjour Maxime.
Bonjour,
toujours sur la réaction sur ces condamnations de Viry Châtillon.
Alors, tout à fait. Alors, entre deux, parce que Greg Caradonis en est permis, je voudrais juste lui rappeler que l'étoile, bientôt, et ce ne sera pas les seuls à l'avoir sur le maillot, ça c'était une aparté comme ça.
Ah, Maxime.
Parce que j'écoute et que...
On sait que le PSG va gagner la Ligue des Champions cette année.
Ouais, on l'aura. Je vous assure qu'on l'aura, l'étoile.
Bah, ouais. Un jour, oui. On...
Pour revenir au sujet qui est un peu plus dramatique... On parle de l'exécutif. Le souci qu'il y a, c'est qu'ils font juste appliquer les lois tant qu'il n'y aura pas une vraie réforme de la justice sur les peines. Tant qu'on, enfin, je les prends rarement en exemple, mais il y a une chose où ils n'ont pas forcément tort, c'est aux États-Unis, c'est sur le cumul des peines. C'est qu'au bout d'un moment, nous en France, on n'arrive pas à le faire. On prend les plus lourdes et derrière, il y a de toute façon des remises des peines. En gros, à la moitié de la peine, au-delà de 5 ans, il faut se dire que tout ce qui est en dessous, c'est au moins divisé par 2. Et en dessous de 5 ans, en dessous de 2 ans, déjà, on va rarement en prison. On se retrouve avec des bracelets maintenant. Le souci, il est là, c'est que c'est vraiment les lois en elles-mêmes qu'il va falloir réformer. Et autant quand un policier fait quelque chose fait une erreur, il faut que la punition soit exemplaire. Parce que c'est ce qu'on leur demande. Mais autant quand on attaque n'importe quel représentant de la justice, que ce soit une mairie, que ce soit un gendarme, un policier, que ça devrait être impardonnable et on devrait vraiment pouvoir avoir les moyens de les punir.
Mais oui, mais Maxime, ça c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Jusqu'ici, la logique judiciaire, c'est l'individualisation de la peine. Donc il y a refus des peines planchées, par exemple. Mais on pourrait imaginer, par exemple, quand on dit est-ce que la justice est trop laxiste. Moi, je vais vous proposer un cas de figure où elle le serait moins. C'est-à-dire qu'on met en place des peines planchées et on décide, à partir du moment où quelqu'un s'attaque à un policier, de près ou de loin, à partir du moment où il attente à sa vie, il y a une peine planchée, en l'occurrence, alors on peut la définir, lourde, etc. Ce qui fait que le magistrat n'a plus la liberté d'interpréter après la loi, il est obligé de l'appliquer. Bon. Donc ça, c'est un exemple d'une justice qui serait plus lourde, précisément. C'est-à-dire que tous ces jeunes gens qui avaient attenté à la vie d'un policier, ils auraient été condamnés. Parce qu'ils étaient en plus en groupe, il faudrait aussi changer la loi. Bon, ce n'est pas la philosophie de la justice, voilà, aujourd'hui. Donc c'est ce que je dis, est factuel. Mais après, pourquoi pas ? Moi, je ne veux pas dire que je n'ai pas d'avis dessus. Mais on voit ces deux modèles différents.
Bien sûr. Et alors là où on peut... Alors, je ne sais pas si on peut se rassurer, mais vous voyez, quand certaines fois en France, on parle de bandes et qu'on va jusqu'à parler de gangs et de se comparer, c'est là où on voit que ça n'a rien à voir. Parce que quand dans le procès, il y a eu un cafouillage entre deux personnes, c'est là où ça a commencé à monter le ton.
C'est-à-dire
qu'est-ce que vous avez... Il n'y a aucune solidarité entre des personnes en France d'un même groupe. Il faut arrêter de croire qu'on est aux États-Unis, qu'il y a des gangs, qu'il y a des familles
qui sont sous-titrés. Oui, non, mais là, ils se sont même, je veux dire,
bien sûr. Mais bien sont sûr, tapés dessus. Pascal, c'est le souci, il est l'image qu'on va donner de tout ça au début en disant que c'était un gang qui s'est attaqué à des policiers, que c'est des bandes qui sont redoutables. Que non, quand on tape dans la fourmilière, dès qu'on met le premier la tête sous l'eau, ça se tire dans les pattes. Enfin, on est loin d'être comme ce qu'on peut croire ou en tout cas dire dans les journaux. Enfin, c'est ça. Et la dernière fois, moi, j'étais intervenu, vous voyez, sur l'histoire de la petite de 14 ans qui avait été poignardée à la sortie de son collège. Et on reste sur le même thème de l'ultra-violence. Comment vous voulez que les jeunes de 12 ans prennent exemple ou se disent qu'ils peuvent avoir peur de quelque chose? Quand on attaque des policiers avec des cocktails Molotov, on risque rien. Quand dans des manifestations, on lance des cocktails Molotov sur des policiers, on risque rien. Moi, la seule chose que, malheureusement, c'est ce qui va se passer, parce qu'il y en a un jour qui va en avoir marre, c'est qu'il y en a un qui va sortir son arme et qui ne va pas tirer en l'air.
Non, mais c'est pas ce qu'il faut, et évidemment, souhaiter, mais j'entends ce que vous dites, Maxime. Merci en tout cas de ce témoignage. On a marqué une nouvelle pause. Et c'est vrai que c'est un des thèmes qui vous fait fortement réagir. Hein. Je ne peux pas dire autre chose au standard, il y a beaucoup d'appels. Et nous allons pouvoir être avec Marc, qui nous appelle régulièrement d'ailleurs, qui est policier dans l'Essonne. Et puis, si vous souhaitez encore prolonger cette discussion, nous pouvons le faire au moins jusqu'à 14h.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Nous sommes donc avec Marc, qui est policier, qui habite dans l'Essonne. Bonjour Marc et merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Pascal, merci de me recevoir encore une fois. Alors, que vous dire par rapport à cette jolie décision de justice ? Je suis désabusé, un petit peu en colère, mais pour d'autres motifs. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est une décision de justice d'une cour d'assises des mineurs. Une cour d'assises des mineurs, déjà, il y a l'excuse de minorité, c'est-à-dire en fait que la cour d'assises est enclinte à prendre en compte cette excuse de minorité et en faire bénéficier, en fait, dans son jugement, une sorte de clémence pour tous les gens qui sont là. Et que vous soyez majeur au moment des faits et que vous êtes jugé en même temps, vous bénéficiez de cette excuse de minorité. Donc le fait d'avoir des peines qui sont très très peu énormes par rapport à ce qui a été demandé, c'est pas une surprise pour moi. C'est quelque part, en fait, c'est une logique implacable. C'est une logique implacable. Et encore, je trouve que 3 personnes avec 18 ans de prison, c'est assez exceptionnel sur la cour d'assises des mineurs de Paris. Croyez-moi.
Non, mais je le répète, ce qui est étonnant dans ce dossier, c'est peut-être un peu technique, c'est que le parquet fait appel parce qu'il trouve que le premier jugement n'est pas assez sévère. Et à l'arrivée, vous avez des peines qui sont plus faibles en deuxième instance qu'en première, alors que généralement, c'est quasiment jamais le cas, en fait. Si la victime, si, pardonnez-moi, les accusés n'ont pas arrivé à prouver qu'ils sont innocents, on reste généralement sur les mêmes peines, voire elles sont aggravées. Et ce qui est étonnant, c'est que, et c'est la troisième chose, l'avocat général requiert des peines plus légères qu'en première instance, alors que, je le répète, le parquet a fait appel. Donc en fait, c'est incompréhensible. Voilà. Mais nous n'avons peut-être pas tous les éléments. Et ça, faut le dire, c'était un procès qui s'est déroulé à huis clos. Donc je dis cela et peut-être que ces prochaines heures, nous aurons des éclaircissements. Aujourd'hui, ça me paraît incompréhensible, Marc.
Oui, moi ce qui me paraît surtout incompréhensible, en fait, c'est que 18 ans, comme je vous le dis, 18 ans, c'est quand même pas une peine anodine. Il faut quand même regarder, c'est un échelon quand même qui est assez élevé quand même.
Mais elle n'est pas anodine, mais pardonnez-moi, les faits ne le sont pas non plus.
Non, tout à fait. Mais pour vous dire, en fait, c'est une cour d'assises des mineurs. Il faut prendre ça en compte, croyez-moi. C'est quelque chose qui est très très important. Et par contre, ce qui est totalement incompréhensible et voire même choquant, en fait, et moi ce qui me met en colère, c'est 8 ans, 6 ans. C'est-à-dire, vous êtes là, ces gens-là, ils étaient où ? Ils étaient où ? Ils étaient autour de la voiture ? Ils faisaient cuire des saucisses en même temps ou ils étaient là juste pour passer ou pour faire quoi ?
Vous avez parfaitement raison. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez parfaitement raison.
Sur ce drame qui s'est passé, les 20 personnes qui sont arrivées, en fait, elles étaient déterminées. Elles étaient déterminées à tuer des policiers. Ils sont arrivés, ils avaient des cocktails Molotov. C'était pas pour faire joli. Lorsqu'ils ont réussi à faire en sorte que les cocktails Molotov soient à l'intérieur des voitures, ils ont bloqué les portières. Ils ont bloqué les portières. Donc c'est une envie réelle de tuer les gens qui sont à l'intérieur. Faut appeler les choses comme elles sont. Et à partir de là, tous les gens qui sont devant cette cour d'assises des mineurs, je le répète quand même, hein, je radote, mais c'est un petit peu ça. Je comprends pas pourquoi il y en a un qui va prendre 18 ans, l'autre 8, 6. Parce que la personnalisation de la peine, c'est bien joli, mais là, on est sur un effet de bande. On est sur une meute. On est sur une meute qui vient tuer, en fait, qui vient tuer des gens. Donc, c'est quelque chose que les magistrats doivent prendre en compte maintenant, parce que c'est ce qui arrive pratiquement tous les jours dans les quartiers et les banlieues parisiennes.
Alors je précise, parce que c'est important de le dire aussi, que l'une des avocates de la Défense, cette fois, Sarah Mogère-Poliac, a salué un soulagement pour la Défense et un démenti cinglant de l'enquête. Et elle a annoncé son intention de porter plainte pour faux en écriture publique contre des enquêteurs.
Oui, ça c'est... Vous savez, de toute façon, malheureusement, dans un procès, j'en ai suivi beaucoup et j'en ai suivi beaucoup dans le prétoire parce que je représentais parfois des victimes au nom de la police et des choses comme ça. Je peux vous dire que les avocats effectivement parfois se permettent des grandes tirades, des grands mots avec des effets de manche. Hein, c'est un peu du théâtre et tout, mais parfois il y a un peu d'indécence quand même dans ce qu'ils disent. Donc de temps en temps, il faut parfois savoir raison garder et puis garder ses commentaires pour éviter de les mettre sur la place publique. Faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont été mis dans une voiture où il y a marqué police. Donc en fait, on sait à qui on s'adresse. On jette des cocktails Molotov à l'intérieur. On sait ce que ça fait en règle générale. On bloque les portières et on attend.
Non mais moi je trouve ça, je reprends les mots d'Emmanuel Macron, moi, hein, les actes commis sont ignobles et d'une rare cruauté. C'est le président de la République qui le dit et on ne peut être que d'accord avec lui sur ces faits. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup à vous. Une pause et à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et parmi les informations du jour, j'apprends qu'Emmanuel Macron a embarqué à bord d'une voiture de la BAC pour faire le tour des quartiers sensibles de Montpellier. C'est une immersion d'une quarantaine de minutes. Donc ça, j'imagine que ça sera une information qui sera développée ces prochaines heures.
Et commentez, vous pourrez réagir si vous le souhaitez aussi à ce sujet.
Non essentiel.
Non essentiel.
Ah, quel est le signe astrologique le plus intelligent? Eh bien, cher Pascal, des chercheurs britanniques ont mené l'enquête. Ils ont analysé les signes de plus de 900 lauréats de prix Nobel, toutes nouvelles confondues. Et d'après leurs recherches, ce sont les personnes nées sous le signe du Gémeaux, entre le 21 mai et le 21 juin, qui seraient les plus intelligentes. 97 prix Nobel sur ce signe, dont un certain Bob Dylan.
Vous êtes Gémeaux ?
Je suis Lion.
Ah bon ?
Les Vierges, moi je pense, sont les meilleures.
Vous êtes Vierge également ?
Bien sûr !
Quel jour ?
23 août.
23 août.
Et vous, 9 septembre ?
9 septembre, ouais. Vierge. Ouais. C'est un signe curieux, vous savez, les Vierges. Il faut faire attention.
C'est vrai ?
Ah oui,
pourquoi ?
Parce qu'ils sont un peu curieux.
Ah bah on l'observe tous les jours, Laurent.
Bon. Non, mais on en retrouve beaucoup dans les métiers du journalisme, d'ailleurs. Si vous me permettez, Yves Calvi, PPDA. Et... Michel Drucker, il y a plein de vierges.
Et sachez-le, dans ce classement des chercheurs britanniques, qui arrive avant-dernier ? Les lions. Avec les scorpions et dernier.
Ils sont les moins intelligents, les lions ?
Ah, ce seraient les capricornes qui seraient derniers du classement. Les lions avant-dernier.
Les capricornes sont les plus bêtes.
Ah, apparemment, selon des chercheurs britanniques après.
Mais vous n'avez pas le droit de dire un truc comme ça à l'antenne. Il y a plein de gens qui sont capricornes.
C'est une étude non scientifique.
Et alors, les vierges, ils sont comment ? Puisque Greg Caradoni, on est.
Ah, les vierges sont bien, les vierges sont troisième.
Ah, c'est ça, c'est notre place.
Ouais, donc il y a peut-être une erreur dans cette étude.
Donc ça, on est les troisièmes les plus intelligents du signe.
Bravo à vous.
Et Bélier, c'est combien Bélier ?
Alors Bélier, c'est au milieu du classement.
Bon, et après Vierge, c'est quoi ? Donc en 1, c'est qui, vous avez dit ?
Alors en 1, ce sont les Béliers, arrivent ensuite...
Non, en 1.
En 1.
Gémeaux.
Les Gémeaux, pardon. Oui. Les Gémeaux arrivent ensuite, les Balances, les Vierges. Après, vous mettez tous les autres signes et on arrive vers la fin pour les Lions, les Scorpions et les Capricornes.
Mais il faudrait que nous appelions notre spécialiste astrologique.
C'est un sujet,
Christine.
Mais il faut appeler Christine.
Il faut rectifier, hein, si c'est
non,
faux.
Non, mais attendez, il faut l'appeler, là. Il est 13h49, il faut l'appeler avant 14h30.
Nous allons appeler Christine.
Ah oui. Franchement,
on parle de Christine Haas, voilà.
Bah évidemment, en plus, c'est le lundi, les prévisions, je l'ai entendu à 6h58 ce matin. 6h58, oui. Ou 5h58. 5h58,
vous
peut-être.
Vous levez tôt.
Hein. Bah, je me lève tôt, oui. Pour
essayer faire du sport.
Oui, enfin, pour me prendre ma douche, surtout, plus que pour faire du sport. Bon, vous avez autre chose à dire ?
Non, c'était tout pour le moment.
Merci, à tout de suite. Alexis, qui habite Vesoul. Et évidemment, quand on pense à Vesoul... On pense à Brel. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Bonjour Alexis.
Bonjour,
je pense que
Pascal.
Toute la journée, on doit vous dire ça, évidemment.
Non, pas souvent, mais quand on dit qu'on est des Vesoul, c'est vrai, il y en a qui le disent. La chanson.
Bah oui, évidemment.
Mais pas tout le temps.
Mais voilà, je te préviens, je dirais pas Paris.
Non.
Alexis, Que voulez-vous nous dire sur ce sujet qui est infiniment grave et sur lequel on ne plaisante pas ?
Eh bien, moi, je voulais dire que mon garçon est rentré dans la gendarmerie, ça fait 3 ans, et qu'il en a marre parce qu'ils ne sont pas soutenus derrière. Voilà. Ils se tapent des tas de dossiers, ils se font agresser, et il n'y a rien derrière. Et la hiérarchie ne fait rien tout de suite aussi. Voilà, quoi.
Bah, ce que vous dites est drôle, parce que je lisais...
Ils sont fatigués. Que ce soit nos gendarmes, nos policiers, ils sont fatigués. Comme a dit tout à l'heure, il faudrait une grève générale de la gendarmerie, des pompiers et de la police, pour pouvoir qu'ils soient soutenus. Voilà.
Je lisais ce qu'avait écrit Linda Kebab, et chacun la connaît, Linda Kebab. Et ça va dans le sens de ce que vous dites. Elle est déléguée nationale, unité SGP, voilà. Police, et puis elle est intervenue régulièrement, et elle a écrit un bouquin. Elle a tweeté, les policiers de Viry-Châtillon, lâchés par leur administration, zéro prise en charge matérielle, pas un membre de la hiérarchie pour soutenir la victime présente. Ce procès symbolise le rien que représentent les policiers d'en bas dans l'esprit de ceux qui leur donnent des ordres. Et c'est vrai que samedi, au moment du verdict, il n'y avait pas un membre de la hiérarchie. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, il était samedi, je pense que le verdict est tombé entre minuit et une heure. Hein. Bon. Mais il doit avoir, évidemment, quelqu'un de la hiérarchie, bien sûr, ça se passe comme ça.
Bien placé, puis qui doivent les défendre. Oui. Voilà, les soutenir.
Oui, puis même moralement, c'est symbolique.
Moralement.
C'est symbolique, tu es présent. Voilà, tu es présent. Mais bon, il était samedi, il était tard, et peut-être que certains avaient autre chose à faire.
Ben, sûrement. Mais bon.
Et votre fils, mais il est dégoûté, mais il va rester dans la police ?
Ah ben, dans la gendarmerie.
Dans la gendarmerie, pardon ?
Oui, je le soutiens pour qu'il reste.
Oui. Mais alors, ça se traduit comment ? Quelles sont les difficultés qu'il rencontre ?
Il n'en parle pas tellement parce que, bon, il n'a pas trop le droit, mais. Qu'il n'y a rien. Il se tape des dossiers pour que les gars, ils ressortent derrière par la porte de derrière, quoi. Voilà, quoi. Des insultes, tout, des trucs comme ça.
J'ai pas compris. Ils se tapent des dossiers ? Qu'est-ce que vous avez dit ?
Oui, quand ils arrêtent quelqu'un, ils sont obligés de faire des rapports, et puis derrière, il n'y a rien, parce que ça ressort derrière, quoi. Voilà.
Donc il y a quelqu'un qui est pris, qui est interrogé et qui est relâché immédiatement. C'est ça que ça veut dire.
Voilà. Ça dure trop longtemps. Comme vous disiez tout à l'heure, un policier, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous êtes sur la route, moi je suis routier. Vous êtes sur la route, vous faites contrôler, vous payez des puits, quoi. Voilà. Et derrière, comme des coins comme Lille, quand Roubaix, vous voyez des endroits qu'on va, des fois on se demande si on va ressortir tout nu ou pas, parce qu'on a peur, quoi. Voilà.
Bah Alexis, vous êtes routier, figurez-vous que Stéphane est également routier, il habite dans les Vosges, et il y a une grande tradition des routiers sur RTL. Quand nous étions plus jeunes, nous écoutions Max Meynier le soir.
Voilà, tout à fait.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Oui, moi je m'en souviens, j'étais gamin.
Oui, parce que vous n'étiez pas chauffeur routier là. Stéphane, bonjour. Stéphane qui habite dans les Vosges. Et merci d'être avec nous. C'est un thème qui est au cœur de notre actualité depuis 13 heures. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors moi, ce que je tiens à dire, c'est que bon, déjà, avant d'être routier, j'étais éducateur, entre guillemets. Hein. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, surtout tout ce qui est mineur, on essaie de gangréner, alors quand je dis gangréner, le mot est faible. On est gangréné par les bien-pensants, on leur donne tout le temps des excuses. Moi personnellement, je me suis retrouvé avec un cas qui avait 127 condamnations pour fait de violence. Et ce mec-là était toujours dehors. On a des cas comme ça, monsieur, c'était énorme. Moi, j'ai arrêté à cause de ça. Dans les prisons, ce sont les gardiens qui sont en prison. Ce ne sont pas les détenus. Ce sont les gardiens. En France, on ne se rend plus compte, à force de donner des excuses à tout et à tout le monde. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être du social, mais stop, quoi. Cette délinquance, elle n'a pas peur de la justice. Elle n'a pas peur des hommes en bleu. Moi, j'ai 53 ans. Quand j'ai connu les balles, ils n'étaient que deux par voiture. Il y en a un qui descendait, rentrait dans le bal, il y avait 800 personnes. Personne ne l'aurait touché. Personne. Il sortait son sifflet, tout le monde sortait. Il n'y avait pas de brouhaha. Alors, voilà ce que j'ai à dire.
Non, mais la société, elle a changé. Donc, l'autorité qui est prise en défaut dans tous les secteurs de la vie, eh bien, elle est aussi en défaut dans la discipline carcérale.
Il y a un trou dans la justice française, c'est entre les 13 et 16 ans. Et alors que c'est là qu'il faudrait intervenir avec, vous savez, en France, on interdit le mot discipline. Moi, je me suis fait taper sur les doigts à l'époque parce que j'utilisais beaucoup la discipline. Il était hors de question qu'un gamin de 13 ou 14 ans me mette la main sur l'épaule. Il était hors de question qu'un gamin rentre dans mon bureau sans toquer. Non. Alors, je me suis fait à plusieurs reprises taper sur les doigts. Donc, du coup, j'ai arrêté. Forcément, j'étais écœuré par le système. Mais même nos juges trouvent des excuses à tout.
Non, mais l'autorité, c'est une... On le dit, on le répète, et c'est même régulier sur cette antenne. Vous tirez le fil de l'autorité, vous avez une des clés de la société française, mais pas que pour les prisons. L'autorité dans une école, l'autorité dans l'entreprise, l'autorité, c'est le rapport à l'autorité qui a changé. Et il a changé il y a de nombreuses années. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, mais même dans les familles. Je veux dire, dans les familles, les parents ne gouvernent plus, si tant est que le mot soit juste, leurs enfants, comme jadis les parents élevaient, élevaient leurs enfants. C'est comme cela. Je ne sais pas si vous avez des ados, vous avez 53 ans, Stéphane, vous avez des ados chez vous ?
Ma dernière, c'est une jeune fille de 14 ans qui m'ont fait voir de toutes les belles et les couleurs.
Eh oui, parce
que... Mais la même chose, c'est qu'en face, il y a du répondant.
Mais oui, il y a du répondant, mais vous savez très bien que vous êtes vous-même dans une phase de négociation, souvent avec vos enfants, alors que vos parents ne l'étaient sans doute pas avec vous. Vos parents disaient, c'est 11h le soir à 14 ans ou 10h30 pour sortir l'été, encore ça devait être l'été, et puis il ne s'agissait pas de rentrer à minuit. Si tu rentrais à minuit alors que tu avais la permission de 11h, tu étais puni pendant un mois et tu discutais pas.
À l'inverse, pour resaluer sur les juges et autres. Moi, j'ai eu le cas d'une jeune fille qui avait été malencontreusement maltraitée par son père. Mais quand je dis maltraitée par son père, c'est des choses... qu'on n'ose même pas, nous, papa, penser. Vous avez bien saisi la situation. On m'a obligé à cette jeune fille qui était alors aujourd'hui qui était à l'époque stabilisée, qui avait repris, entre guillemets, ses études, qui était en alternance avec une entreprise, que je remercie énormément d'ailleurs encore aujourd'hui. Cette jeune fille, on m'a obligé, pour ne pas couper le lien familial, à l'amener devant une prison pour qu'elle voie son père. Mais on marchait sur la tête.
C'est-à-dire qu'il aurait pas fait... son père était en prison, c'est ça, et donc la justice a souhaité quand même qu'elle renoue le contact avec son père parce que son père était en prison.
Merci. Je suis désolé, il l'avait violé, quoi. Il l'a violé un peu.
J'avais hélas compris. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. On va parler du foot. Vous avez peut-être vu la semaine dernière ce film extraordinaire qui est Coup de tête avec Patrick Devers qui repasse régulièrement. Vous l'avez pas vu sur Arte? Vous voyez ce film? Non, vous l'avez jamais vu avec Greg
Carradine? Non, jamais.
Qui est un film extraordinaire. Et on va parler... Il y a Hubert Deschamps qui est un vieux comédien. Et à un moment, il dit... Les vieux ou les anciens ne disaient pas football. Vous savez comment ce qu'il disait ?
Fatball.
Il disait fatball, effectivement. Et à un moment, Hubert Deschamps, il dit « Votre fatball, vous pouvez aller le jouer chez les Grecs !» Parce qu'il y a... Il y a Patrick Devers qui est précisément en prison d'ailleurs et qui ne veut pas lui être en prison ce soir-là. Il veut sortir de la prison. Enfin, c'est une histoire un peu complexe pour qui n'a pas vu le film. Mais on va parler football. Mais après le 14h de Monsieur Serrano qui est là. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Vincent Serrano.
Rebonjour Pascal, bonjour à tous. Un homme blessé gravement par balle à Montpellier où Emmanuel Macron est en visite sur le thème de la sécurité. Un piéton touché par 3 balles dans le quartier Beaux-Arts. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le chef de l'État s'est rendu ce matin au commissariat central où il a défendu l'un de ses engagements. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2022. Il doit se rendre cet après-midi dans le quartier de la Mosson pour évoquer notamment la lutte contre le trafic de stupéfiants. La mère de bataille du président de la République. C'est une fuite en avant pour le football européen. Déclaration ce midi sur RTL de Roxana Maracineanu à propos de la création d'une Super League par 12 grands clubs. La ministre des Sports s'inquiète pour les autres formations qui n'y participeraient pas. Pour le football amateur aussi, il faut se poser la question de l'intérêt de ces matchs. Le Kremlin rejette les mises en garde occidentales sur l'état de santé d'Alexei Navalny, notamment celle des Américains qui promettent une réponse forte en cas de décès de l'opposant russe. Moscou a confirmé son transfert vers un hôpital pour prisonniers en jugeant son état de santé satisfaisant. Alexei Navalny qui entre dans la 3e semaine d'une grève de la faim et il a accepté de recevoir des vitamines. Mission accomplie pour un Ingenuity, l'hélicoptère d'1,8 kg de la NASA a survolé brièvement la planète Mars. Premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète que la Terre, court, moins de 40 secondes, mais historique avec une première photo en noir et blanc de son ombre sur le sol martien. Demain en couleur après un nouveau décollage depuis le rover Perseverance. 183 décès sur la route le mois dernier, soit une baisse de 28% par rapport au mois de mars 2019. Chiffre à prendre avec précaution puisque cette baisse de la mortalité s'explique en grande partie par le couvre-feu, la limitation des 10 km et l'augmentation du télétravail. La météo cet après-midi avec ce voile nuageux à l'est du Rhône, du Nord-Pas-de-Calais au Grand-Est et en passant par la Bourgogne jusqu'à la Corse. Les températures, elles sont comprises entre 14 à Nancy et 20 degrés à Bordeaux. Les courses, ça se passait à Saint-Cloud. Je vous donne l'arrivée provisoire. L'As, le 13, le 8, le 10 et le 14. Photo provisoire pour la troisième place entre le 8 et le 10. RTL, il est 14h03. C'est à vous, Pascal Praud.
Et merci Vincent Serrano. La suite de notre émission avec du football à présent.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le foot qu'on aime. Le foot de la fin des années 70, le foot coup de tête avec Patrick Devers, le foot rural, le foot où les joueurs restaient toute leur carrière dans le même club. C'était Henri-Michel à Nantes, c'était Kurkovic à Saint-Etienne ou Herbin à Saint-Etienne, Suodo à Nantes aussi. Ce football-là n'existe plus. Giresse était resté à Bordeaux je ne sais combien d'années. Et on aimait évidemment retrouver ces signes-là, ces repères-là. C'est un foot qui est mort et enterré. Effectivement, aujourd'hui, c'est davantage un foot de mercenaires. Et puis demain, peut-être, les riches ne joueront plus qu'entre eux.
Sur fond de bande originale de coup de tête dont vous parliez tout à l'heure.
Bien sûr. Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane. Vous êtes président d'une association d'arbitres. Moi, ça me rend triste.
Hein. Ben, moi aussi. Parce que on peut s'apercevoir que bah, c'est que les grands clubs, les petits clubs. Et il faut pas. Il faut. Bah, je pense que les grands clubs ont oublié que les joueurs viennent et sont formés dans les petits clubs, dans les clubs amateurs. Mais et là, on assiste à un football pognon. Enfin, je suis désolé de parler comme ça. Hein, football pognon où les plus gros, bah, en veulent encore plus et vont laisser, on va dire, les petits mourir. Voilà, donc c'est un peu dommage, c'est fort dommage. Et voilà, je pense que bah, même le club les clubs français, s'ils ne participent pas à cette coupe, bah, je ne vois pas quels spectateurs pourront. Les vrais supporters ne regarderont pas, tout simplement. Donc je ne vois pas l'intérêt.
Ah si, les supporters, ils iront, c'est ça, parce qu'après, ils s'habitueront. La logique du système pour le PSG, pour le Real Madrid, pour Manchester City, effectivement, c'est de jouer les uns contre les autres. C'est-à-dire que le PSG, au fond, d'aller jouer à Reims ou à Dijon, et j'ai rien contre Reims et Dijon, je le précise, c'est évidemment pas l'objectif. Voilà. Et c'est plutôt même un obstacle, au fond, pour eux, d'aller jouer à Dijon ou à...
Dans ces cas-là, si le PSG bah, veut jouer dans cette ligue, et bah, qu'il ne joue plus en championnat.
Ben c'est après, pour tout vous dire, moi je ne crois pas que ça ira au bout. Je pense qu'il y a trop d'obstacles. Obstacles réglementaires, on a vu la Commission européenne à parler aujourd'hui, Emmanuel Macron, ou le gouvernement va sans doute dire un mot. Vous avez l'UEFA, la FIFA, les fédérations qui sont contre. Ça me paraît difficile d'aller jusqu'au bout. C'est peut-être un rapport de force que les grands clubs veulent établir pour toucher plus d'argent. Mais je trouve qu'on a perdu surtout du charme du football. C'est ça qui me fait de la peine.
Alors, moi qui suis issu du monde amateur, hein, je pense que... Bon, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, ça va accentuer la crise qu'il y a actuellement. Il y a une baisse du nombre de licenciés. Enfin, ouais, faut, voilà. Et je pense que ça va, ce comportement-là va accentuer le phénomène. Voilà, j'en pense que du mal, hein, franchement.
Ben merci Stéphane. On va marquer une pause et vous êtes nombreux. Alors, j'ai dit, je ne sais pas si l'ami Christian Olivier est dans les parages ou pas. Je vois qu'il est en train de répondre sur la VAR, qui est un de ses sujets de prédilection. Mais ce serait bien s'il passait une petite tête, comme on dit dans notre studio, pour nous dire son sentiment. Nicolas Jargerot disait tout à l'heure que ça a peu de chances d'aller au bout, mais méfiance, ça tout de suite.
Pascal Praud, Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
On parle foot. Et vous pouvez toujours appeler. Vous tomberez peut-être sur Pierre-Louis, Olivier, Cyranouche, sous la haute autorité aujourd'hui de Rachel, qui est là, la célèbre responsable du système. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous habitez Strasbourg.
Voilà, le pays de la bière et de la choucroute.
Bah, oh.
mais aussi du football.
Très belle ville, pardonnez-moi. Très belle ville, Strasbourg.
Oui, oui, tout à fait. Non, je voulais réagir parce que je trouvais, comme votre auditeur précédent, que ce funeste projet de grand club européen allait véritablement tuer ce qu'on aime vraiment dans le foot. Ces relents d'amateurisme, de soirées européennes dont vous avez rappelé la mémoire à l'époque, avec des titres, des noms d'équipes que peut-être beaucoup de jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, type Steaua Bucarest, Banik Ostrava.
Le Banik Ostrava. Ça me faisait rêver, moi, le Banik Ostrava.
Ou même le Kishpest.
Bien sûr, Ushpest, vous avez raison, équipe hongroise, bien sûr.
Que le Racing a affronté à plusieurs reprises d'ailleurs. et faire une ligue comme ça qui réunirait que les gros clubs riches, ça va simplement tuer le foot. Quel va être l'intérêt d'abord pour les joueurs de gagner une ligue qui au final n'a aucun prestige puisque jouée par...
L'intérêt il est financier. Hein. Quand vous allez payer, si vous payez les joueurs 3 fois plus, et ça me paraît curieux d'ailleurs parce qu'ils sont déjà tellement payés.
Quand on est gamin, on rêve de gagner quoi ? La Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. On rêve pas de gagner des nations, par exemple. Avec des nations qui a été créée là récemment, ça fait rêver aucun joueur. Excusez-moi. En plus, ils se plaignent toujours de matchs.
Ah, vous êtes en train de vous garer là, avec l'aide assistance au stationnement, peut-être.
Ils se plaignent du nombre de matchs qui se répètent, de calendriers trop chargés. Alors, il va falloir faire un choix. Ça veut dire quoi ? Qu'on verra plus... le Barça, le Real, en C1, je dis pas qu'on aura des purges, mais il y a aussi des purges avec les gros clubs, hein. C'est pas toujours joyeux.
Non, la Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Le foot, en quart de finale, demi-finale, huitième de finale, généralement, t'as des matchs formidables. Généralement. Parce que là, t'as... années, ça a souvent été très, très haut de gamme.
Par exemple, je prends l'exemple de Liverpool-Real, là, le match retour.
C'était pas bien. Dites-moi, Strasbourg, dernier titre de champion de France en
79.
C'est le seul d'ailleurs. Vous pouvez citer 3-4 joueurs de l'époque ?
Albert Gemmerich, je crois, de l'époque.
Oui.
Specht.
Léonard Specht, oui.
Ouais, Léonard Specht. Est-ce que notre ami Raymond Domenech...
Bien sûr, Raymond Domenech, il était arrière latéral.
Est-ce que Joël Tanter...
Mais Joël Tanter, qui était roux et qui courait vite, et ailier sur le terrain, jouait, bravo, vous en avez cité 4.
5 même.
Est-ce qu'on en aurait pas ? Alors là, franchement...
Vous avez Piazecki...
Francis Piazecki... Je crois qu'il nous a quitté d'ailleurs.
Pierre Piazecki, hier lâché. Il y avait un joueur qui s'appelait Deutschmann. Il y avait Arsène Wenger. Il y avait Jean-Jacques Marx. Jackie Duguay-Pérou. Des noms comme ça.
Je suis né qu'en 80.
Donc 80.
Dans les livres d'histoire. Mais...
Ah ouais, donc vous n'avez pas connu le Racing 60. Il y a même Carlos Bianchi qui a joué.
J'ai connu le Racing de Xavier Gravelaine, de Pascal Nouma.
Ah oui, avec une Coupe de France en 80.
Ouais, de Mostovaï.
Bien sûr.
Le FC Nantes en 95, une seule défaite.
C'est vrai. Ah d'ailleurs, c'était à Strasbourg.
Oui.
Évidemment. Hein, c'était à Strasbourg, hein, c'est ça, hein, la seule défaite au bout de 33 matchs. Bon, merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup. On va faire juste une petite parenthèse dans cette actualité foot, puisque Christina, c'est là. Et Christina, je l'ai écoutée comme tous les lundis. Bonjour Christine.
Bonjour mon cher Pascal.
Parce que le lundi, enfin, je sais si ma semaine va être bien ou pas.
Oui.
Vous voyez, mais moi ça me fait pas rire parce que je suis très sensible à l'astrologie. Alors, figurez-vous qu'une étude vient de sortir avec comme simple paramètre le prix Nobel. Bon, et avec ce un peu juste, hein, vous me direz, comme prix Nobel, comme paramètre, et effectivement, on apprend que le signe le plus intelligent, ce sont les Gémeaux. C'est eux qui ont eu le plus de prix Nobel.
Bon, tous les autres sont idiots et les autres prix Nobel sont tous Gémeaux.
Non, c'est simplement ce signe qui en récolte le plus. Le signe astrologique serait le plus intelligent de l'étude, d'après les recherches.
Quel est le but de cette recherche, de valider l'astrologie?
Je n'en sais rien. Moi, je vous soumets cela puisque vous êtes la spécialiste. Si vous me renvoyez à moi mes questions, ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un signe plus intelligent qu'un autre?
Mais non, bien sûr que non.
Ah bon, vous me rassurez.
Notre forme d'intelligence, les intelligences sont très différentes les unes des autres.
Hein. Mais par exemple, est-ce que les Gémeaux sont plus cérébraux? Par exemple, que...
Oui, c'est vrai. Les Vierges aussi.
Bon, est-ce qu'il y a, par exemple, des signes qui vont plus vers la littérature, vers les mathématiques, vers les arts? Puisque ça, c'est des intelligences peut-être différentes. C'est aussi ça que dit ce sondage, et je voulais votre avis.
Oui, mais bon, il faut regarder le thème dans son ensemble, parce qu'on ne peut pas définir une personne uniquement par son signe. Il y a l'ascendant et il y a 10 planètes. Donc, c'est vrai que, par exemple, on dit que les balances sont plus artistes que les autres.
Chez les dictateurs, par exemple, les taureaux ou les béliers, il y en a plus que chez les vierges, si vous me permettez. Il n'y a pas de dictateur qui soit né sous le signe de la vierge.
Ça vous rassure ?
Non, bah pourquoi pas je trouve que c'est
parce qu'il est vierge, c'est pour ça.
Je suis frappé. Dans des postes souvent de commandement, tu retrouves des lions, tu retrouves des béliers, tu retrouves des taureaux.
Oui, les lions, les béliers, parce que ce sont des signes de feu, effectivement, qui vont avoir beaucoup d'autorité. Le taureau, c'est parce qu'il veut tout contrôler et qu'il a une espèce de pulsion d'emprise, comme ça. Bon, mais ce sont des généralités. Il faut bien le dire. Et on ne peut pas dire que... c'est vrai que François Jacob, qui a découvert l'ADN, était Gémeaux.
Ça
ne veut pas dire que tous les Gémeaux sont capables d'avoir un prix Nobel.
Bien sûr. Mais en tout cas, d'abord, ça nous fait plaisir de vous avoir déjeuner.
Pascal.
Et puis, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Un petit mot, parce que vous savez que Greg Caradoni est né sous le signe de la Vierge également.
Bonjour Christine.
Oui, bonjour Greg.
Alors, c'est un 23 août, c'est premier décan. Est-ce que ça veut dire la même chose que deuxième décan?
C'est le premier jour, de la Vierge. Et effectivement, chaque décan n'est pas le même que le précédent. Il y a trois décans, puis 3 fois 10 jours. Hein. Et on ne vit pas les mêmes choses quand on est premier décan et du deuxième décan.
Merci Christine. 14h17, on va revenir au football. Je ne sais pas si...
faudrait
faire une étude pour voir si... Mais c'est intéressant de vous avoir...
Vous savez que Raymond Domenech n'engageait que des footballeurs qui n'étaient pas scorpions, parce qu'il trouvait que les scorpions fichaient un peu le bordel, pour parler vulgairement.
Ah bon ? Et c'est vrai ou pas ?
Ça peut.
Oui, ça peut rien dire.
Dans une équipe, le scorpion...
Mais le vierge, alors, il est au service des autres, a priori. Donc, il faut l'engager, lui. Non, le vierge.
La vierge est au service des
autres. Faut l'engager. Dernier passeur, la vierge, alors.
Elle organise. Sait organiser.
Voilà, c'est des genres de têtes.
Vous savez ce qu'on va faire, du coup? Je vais organiser une petite pause, là.
Merci Christine, mais moi je sais que je peux parler d'astrologie pendant des heures. D'abord, je connais rien et c'est formidable, mais c'est tout le monde regarde en fait son...
Par curiosité.
Mais bien sûr, cœur, santé,
et
forme.
Et les vierges sont curieuses.
Ah bah oui, mais qui ne l'est pas? Merci beaucoup Christine.
Merci. Des bisous.
On va revenir au foot avec la musique de Coup de tête, qui est un film qui doit être de 78 ou 79, je crois. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il y a beaucoup de mélancolie dans cette musique. Ce qui finalement correspond à notre état d'esprit, parce que le football entre soi comme ça, c'est pas rigolo. Ce qu'on aime aussi dans le foot, c'est les surprises, bien évidemment, quand le grand est battu par le petit. Donc si tout le monde joue ensemble, s'il n'y a plus de montée, de descente, tu enlèves beaucoup de critères du sport et du charme du sport. Ce serait intéressant d'ailleurs d'écouter Michel Platini sur ce sujet. Cédric, bonjour, vous habitez Bourg-en-Bresse.
Bonjour Pascal, Bourg-en-Bresse.
Bourg, pardonnez-moi.
Je vais la faire à chaque fois.
Mais pardonnez-moi, à chaque fois j'oublie.
Ça va finir par rentrer, c'est pas grave.
C'est possible.
Donc du coup, alors, pour la Super League, en fait, pour moi, c'est la Super League de la loose, en vrai. Alors, d'abord, c'est une honte pour le football, mais complètement. Ensuite, je voulais revenir sur le fait qu'on dise que c'est les clubs les plus riches et surtout les clubs les plus endettés, parce que le Real et Barcelone ne sont pas riches, ils sont endettés. Quand on est endetté, on n'est pas riche, on est endetté, point. Par ailleurs, ça va être la Super League de la loose si ça va au bout, parce que je crois comme vous, pas un seul instant que ça aille au bout. Tout simplement parce qu'ils pourront pas retenir les bons joueurs. Vu les sanctions énoncées, exclusion de son championnat, exclusion peut-être pour le joueur de son équipe nationale, etc. Aujourd'hui, je vois pas, pour prendre un exemple, je ne vois pas Kylian Mbappé dire « je ne vais plus jouer en Ligue 1 et je ne vais plus jouer pour ma sélection nationale qui est la France ». Ça me paraît impossible. Donc, qu'est-ce qui va pas se passer si cette Super League elle est créée? C'est que ça va attirer les joueurs de presque 35 ans en fin de carrière qui vont avoir besoin d'un peu de pognon. Et puis, ça va attirer les joueurs de seconde zone. Mais ça s'arrêtera là. Et puis, ce qu'il y a de beau dans la Ligue des Champions et dans ces superbes affiches, justement, c'est la rareté de ces affiches. Si on voit constamment les mêmes affiches, il y aura plus d'attrait, ce sera plus attrayant finalement. C'est de se dire, ouais, ce sera un banal Barça-Real ou un banal Barça-Liverpool. Enfin voilà, donc voilà, moi mon sentiment c'est que ça ira pas au bout et que c'est une honte pour le football européen. Franchement, voilà. Voilà mon sentiment.
Ben non, mais il est partagé. Alors ce qui est drôle, c'est que je ne trouve personne qui défendent ce projet de Super League. Et je pense que parmi les supporters, non plus, c'est pas notre ADN.
Ça paraît logique parce que quand on est supporter, on aime le football, on n'aime pas le pognon. À nous, ça nous coûte cher d'aller dans les stades. Mais nous, quand on voit des clubs de riches se battre entre eux, moi je suis un joueur amateur, ça fait 36 ans que je joue.
Vous jouez toujours ?
Je joue toujours, ouais. J'ai 40 ans et je joue encore.
Et vous jouez en quoi ?
Je suis gardien de but, moi, et je joue en district maintenant.
En district que vous jouez ? Ah bah c'est un bon niveau encore, dites non à 40 ans. Ouais.
Et du coup, je suis toujours en senior, hein, j'ai pas envie de passer chez les vétérans, j'ai toujours cet esprit compétitif qui fait que j'ai pas envie d'y aller. Mais au fait, voilà, on aime le foot avant tout, on est supporter, on est notre club, on aime le foot. Toutes ces histoires de pognon, ça saoule les gens, et ça donne une mauvaise image du football. Et pour le jeune qui rêve d'être footballeur, il va plus rêver d'être footballeur, il va rêver de gagner du pognon. Franchement, c'est une honte. Vraiment, une honte.
Merci Cédric. Merci vraiment beaucoup. Et Laurent Tessier, c'est l'heure du débrief, cher Laurent. Premier débrief de la semaine.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir dès le début de l'émission.
Verdict rendu par la cour d'assises des mineurs ce week-end concernant les policiers, on s'en souvient, grièvement brûlés en 2016 à Viry-Châtillon. Seuls 5 des 13 jeunes en appel ont été condamnés à de la prison ferme.
La justice est-elle trop laxiste ? L'avis de Frédéric, commandant de police dans les Hauts-de-France.
Certains ont tenté de tuer des policiers. La grande justice de notre pays a encore fait la part belle aux délinquants, aux sauvages. Alors oui, je suis en colère. Le fait de porter un uniforme ne représente pas un défouloir à tous les maux de la société.
Hamid a été choqué également par ce verdict.
Moi, ancien policier, quand j'ai entendu le verdict, mais alors je suis tombé sur les fesses. Ces magistrats-là sont des fous et des irresponsables. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Hein.
Et Hamid va même encore plus loin.
Ce qui ferait réfléchir les politiques, c'est une grève générale du zèle de toutes les forces de l'ordre. Et là, croyez-moi, peut-être qu'après, là, il se remuerait peut-être un petit peu l'exécutif. Mais une grève générale, plus de PV, plus rien. Juste les interventions urgentes. Mais tout le reste, on laisse tomber.
Et puis, mesdames, messieurs, un séisme sans précédent dans le monde du football. 12 grands clubs veulent lancer leur Super League. Comme dirait Emmanuel Macron.
Parce que c'est notre projet.
Et quitter la Ligue des Champions et cette musique qui nous transcende tous. Alors l'UEFA a promis de répliquer. Souhaitez-vous plus de Real Madrid, Manchester United, Barcelone, Juventus, Liverpool, Milan AC ? Interrogeons au hasard notre réalisateur Greg Caranoni.
Vous êtes un fan de foot ?
Non, pas du tout.
Et loupé. Évidemment, dès que vous interrogez un Marseillais sur la Ligue des Champions...
Et est-ce que c'est le moment de rappeler que Marseille est le seul tenant du titre ? Je sais pas.
Oui, Marseille, jamais les premiers, mais on le dit à chaque fois, ami.
Hop, Hop, Maxime, supporter du Paris Saint-Germain. Ne vous laissez pas faire.
Greg Caradonis en est permis. Je voudrais juste rappeler que l'étoile, bientôt, et ce ne sera pas les seuls à l'avoir sur le maillot. Ça, c'était une aparté comme ça.
Ah. Et vous avez eu raison. Et Pascal, une étude vous a fait réagir.
Non essentiel.
Non essentiel.
Selon des chercheurs britanniques, le signe astrologique le plus intelligent serait celui des Gémeaux. Ils ont analysé les signes de plus de 900 lauréats de prix Nobel, tous domaines confondus. En dernier, les Lions, les Scorpions et les Capricornes. Une question, Pascal, à Greg.
Vous êtes vierge également ?
Bien sûr.
Ah, un mot sur les vierges ?
C'est un signe curieux, vous savez, les vierges. Il faut faire attention.
C'est vrai ?
Ah oui.
Pourquoi ?
Ben parce qu'ils sont un peu curieux.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Comme Greg et Maxime au 32-10 ont mis en avant leur club, gloire au FC Nantes.
Il reste 5 matchs au FC Nantes pour se sauver. C'est possible, il faut y croire, quoi qu'il arrive. La pause et Flavie.
On l'a assez écouté, non, la chanson, là, c'est bon. Hein.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole.